On peut briller de bien des manières différentes. Par des prouesses sportives, intellectuelles ou scientifiques, en aidant son prochain, mais aussi en étant un modèle de vie dans les ténèbres morales et spirituelles. Néron éclairait ses jardins en transformant des chrétiens en torches vivantes. Mais ces martyrs étaient aussi des lumières auprès des païens en rendant gloire à Dieu par ce témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Je continue à lire dans le chapitre 12 de Daniel. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Verset 3. Ces hommes et ces femmes possèdent la vraie connaissance car ils ont foi en la parole de Dieu, mais ils ont succombé aux persécutions organisées par l'Antéchrist pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Précédemment, dans une prophétie qui annonçait la venue d'Antiochus IV Épiphane, un précurseur et un prototype de l'Antéchrist, Daniel a dit « Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. » Fin de citation. Ce passage réunit dans la même vision prophétique des événements analogues. Les premiers ont déjà eu lieu sous le règne du roi Antiochus et les seconds se produiront pendant la deuxième moitié de la grande tribulation. En d'autres mots, cette prophétie a 2 applications. La première s'est réalisée avec la famille de prêtres, les Maccabées, au 2e siècle avant notre ère, et la seconde concerne les croyants israélites et non-juifs qui devront traverser la grande tribulation et se réalisera à la fin des temps. Les Maccabées prirent les armes pour résister à l'envahisseur syrien et préserver l'héritage spirituel de leur nation. Leur courage et leur consécration à l'Éternel attirèrent des gens peu recommandables, mais aussi des purs. Et parmi les fidèles qui se joignirent aux Maccabées, beaucoup trouvèrent la mort. Les Israélites et les non-juifs qui auront foi en Jésus-Christ seront sévèrement persécutés par l'Antéchrist, mais ils seront comme des lumières qui brillent dans les ténèbres, et par leur témoignage, ils attireront d'autres à Jésus-Christ. La fin de la prophétie donnée à Daniel promet un degré supérieur de gloire à ceux qui, par leur foi, amèneront des non-croyants au Sauveur. Ayant été des lumières pendant les jours sombres du malheur, leur récompense sera de rayonner la gloire de Dieu dans le royaume des cieux. Mais l'intensité de cette luminescence sera proportionnelle à la fidélité du témoignage qu'ils auront rendu quand ils étaient sur terre. Jésus a dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Et l'apôtre Paul écrit « Faites tout pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache. Dans cette humanité corrompue et perverse, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de Dieu. » La prophétie dit que les justes brilleront comme les étoiles. Seulement, il faut bien comprendre que être juste devant Dieu ne consiste jamais à faire des bonnes œuvres, suivre une liturgie, obéir à des règles ou que sais-je encore. Ces comportements, aussi nobles soient-ils, sont absolument sans valeur devant Dieu. Si je venais subitement à mourir, je suis sûr que j'aurais droit à un enterrement de première classe avec toute la pompe due à mon rang. On trouverait des gens pour dire que j'étais ceci et cela, bref, le meilleur, mais ce seraient des discours vides, truffés de mensonges, histoire de consoler ceux qui ont la larme à l'œil. En réalité, il y a des grosses taches sur tout ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie, et rien n'est absolument pur. Et ma justice personnelle est aussi nauséabonde que le purin qui coule d'un beau fumier. Le Dieu créateur n'accepte que la perfection et elle ne se trouve qu'en son Fils Jésus. En conséquence, les justes ne sont pas ceux qui ont à leur actif des actions mirobolantes, mais ceux qui sont déclarés justes parce qu'ils ont simplement placé leur foi en Jésus, leur Sauveur. Je continue le texte de Daniel. Quant à toi, Daniel, serre ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Verset 4. Le mot « serre » signifie « enrouler sur lui-même le côté écrit d'un parchemin ». Ensuite, il ne reste plus qu'à le cacheter en attendant que les événements sur terre commencent à prendre la tournure annoncée par la prophétie. Les paroles que Daniel doit serrer sont les prophéties qui s'accompliront au temps de la fin, qui concernent la 70e septaine d'année, et plus particulièrement la deuxième moitié qui s'appelle la Grande Tribulation. Quand l'ange Gabriel ordonne de sceller le livre, il parle au sens figuré. Il veut dire que la prophétie concernant la venue de l'Antéchrist aura un accomplissement lointain et ne pourra être totalement comprise qu'au temps de la fin. C'est à ce moment-là que beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Le verbe pour étudieront décrit quelqu'un qui se déplace pour chercher quelque chose. Dès que l'Antéchrist viendra sur la scène internationale, les prophéties le concernant commenceront à s'accomplir. Alors, tous les croyants, israélites et non-juifs, auront à cœur de lire tout ce qui a été annoncé pour leur époque afin de comprendre ce qui se passe et parce que leur survie en dépendra, car ils devront se préparer à faire face aux terribles persécutions qui ne sauraient tarder. Ils étudieront avidement le livre de Daniel ainsi que celui de l'Apocalypse qui sera alors d'actualité. D'ailleurs, concernant ce livre, l'ange qui parle à l'apôtre Jean lui ordonne de faire le contraire de Daniel quand il lui dit « Ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Quand Daniel a reçu ces révélations, il est probable qu'il les a littéralement scellées et cachées afin de préserver leur intégrité. Mais une fois qu'elles furent lues par les responsables du peuple de Dieu et acceptées dans le canon des textes inspirés de l'Ancien Testament, elles n'avaient plus lieu d'être scellées. Nous ne sommes pas encore dans la tribulation, mais en attendant que les événements qui doivent arriver se mettent en place, nous devons suivre le conseil de l'apôtre Paul qui écrit « La grâce de Dieu qui s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes » nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le temps présent, dans la tempérance, dans la justice et dans le respect de Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Fin de citation. Je continue le texte de Daniel. Moi, Daniel, je continuais à regarder et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. Verset 5. Juste avant de recevoir cette dernière prophétie, longue et complexe, Daniel avait vu une manifestation de l'ange de l'Éternel planant sur les eaux au-dessus du fleuve Tigre. Puis, l'archange Gabriel était venu lui parler. Maintenant, il aperçoit deux anges se tenant chacun sur l'une des rives du Tigre. Ces deux personnages sont là pour servir de témoins au serment qui va suivre. En effet, selon la loi de Moïse, pour instruire toute affaire judiciaire, il fallait la présence d'au moins deux témoins. Je continue. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Verset 6. Le troisième personnage qui ici est très brièvement décrit, est la même manifestation de l'ange de l'Éternel que Daniel a vu précédemment planant au-dessus du fleuve Tigre. Quant à Gabriel, le texte ne dit pas ce qu'il est devenu. Cependant, comme il avait été envoyé pour donner la prophétie à Daniel et que sa mission est terminée, il est probable qu'il est retourné chez lui dans les cieux. Un des anges situés sur l'une des rives du fleuve demande à l'ange de l'Éternel « Combien de temps dureront les événements précédemment décrits qui concernent le règne de l'Antéchrist ?» Je continue. « Alors l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer. « Je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps. » Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. Verset 7. En général, on ne levait qu'une seule main pour prêter serment. Mais ici, le Seigneur lève les deux mains pour bien souligner la solennité de ce qu'il va dire. Il jure au nom du Dieu qui ne ment pas, qui est éternel et absolument souverain sur les affaires des hommes. Il dit que le temps d'épreuve terrible que va subir le peuple d'Israël sous la botte de l'Antéchrist sera de 3 ans et demi, soit 1260 jours ou 42 mois, des chiffres qu'on rencontre plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit toujours de la grande tribulation, la deuxième moitié de la 70e septaine d'année de la prophétie de Daniel. En effet, les 3 premières années et demie de cette dernière septaine seront une période relativement paisible pour Israël grâce à l'accord de paix signé par le César de la troisième phase de l'Empire romain qui garantira la protection du peuple juif. Comme je l'ai déjà dit, les Israélites seront alors désarmés et sans aucun moyen de défense. Mais au milieu de la dernière septaine d'année, l'Antéchrist rompra le pacte qu'il avait établi avec Israël et dira « Je vais attaquer un pays ouvert et j'arriverai chez des gens qui vivent tranquilles dans la sécurité, habitant dans des villes sans remparts, sans verrous et qui n'ont pas de portes. » Fin de citation. Les persécutions seront alors bien pires que celles qu'ont subies les Juifs sous le régime nazi. Israël en tant que nation sera presque effacé de la carte. Toutes ses institutions cesseront de fonctionner, son économie sera entièrement détruite et ses habitants seront dispersés dans toutes les directions pour essayer d'échapper à la Gestapo de l'Antéchrist. Tout ce qui aujourd'hui fait la force et la fierté de l'État d'Israël ne sera plus. Je continue. J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandais, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements ?» Verset 8. La question de l'ange ne portait que sur la fin de cette tribulation. Maintenant, c'est Daniel qui demande comment tous ces événements vont se terminer et surtout comment la délivrance d'Israël va se faire. Jusqu'à présent, Dieu a révélé à Daniel que, premièrement, la dernière phase de l'Empire romain se terminera par le Dieu des cieux qui suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Deuxièmement, dans une vision, il a vu que quelqu'un semblable à un fils d'homme recevrait la souveraineté et la gloire et la royauté et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apporteront leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Troisièmement, il a aussi vu que le jugement serait rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut, et qu'arriverait pour eux le temps de prendre possession du royaume. Enfin, il sait que le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ces informations ne sont pas vraiment nouvelles puisque plusieurs prophètes les ont déjà annoncées. De plus, d'autres prophètes qui se lèveront après Daniel les confirmeront. Je continue. Il me répondit, « Va, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. » Verset 9. En d'autres mots, « Pour le moment, Daniel, retourne à tes affaires. La réponse à ta question est déjà consignée dans ce qui t'a été révélé et que tu dois tenir scellée, et elle se rapporte à un temps éloigné qui ne rentre pas dans l'horizon de ta vie. » Je continue. « Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. » Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du discernement comprendront. Verset 10. Daniel reçoit quand même des informations intéressantes. Pendant la grande tribulation, quand l'Antéchrist pourchassera les Juifs, beaucoup d'entre eux cesseront enfin leur révolte contre l'Éternel et se tourneront vers leur Messie, le Sauveur, Jésus-Christ. Je lis une prophétie à ce sujet. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Fin de citation. Les méchants sont les incrédules. Ils ne comprendront pas les enjeux des événements de la fin des temps et continueront donc leur petit bonhomme de chemin comme si rien n'était, accrochés à leurs fausses valeurs et dans l'état de rébellion contre Dieu qui caractérise l'humanité dans son ensemble, ils accepteront sans broncher d'adorer l'Antéchrist et de porter sur eux sa marque, son chiffre, son effigie, ce qui revient à signer sa condamnation à la mort éternelle. Je continue le texte. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Verset 11. L'abominable profanation a lieu au milieu de la grande tribulation et dure 1260 jours. Or ici, il se passe quelque chose d'important pendant les 30 jours suivants. Cette période de temps a été prophétisée. Je lis le passage. « J'interviendrai en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère pour vous faire sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays étrangers où vous avez été dispersés. Je vous amènerai au désert à l'écart des autres peuples et là je vous jugerai face à face. » Tout comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert d'Égypte, je vous jugerai vous aussi, le Seigneur l'Éternel le déclare. Je vous ferai passer sous ma houlette, et je vous ramènerai dans le lieu de mon alliance. J'éliminerai du milieu de vous ceux qui se sont révoltés et qui se sont rendus coupables envers moi. Je les ferai sortir des pays étrangers où ils habitent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Fin de citation. Cette période de temps de 30 jours, d'un mois, est nécessaire pour que tous les Israélites fidèles disséminés dans le monde entier rentrent dans leur pays afin de participer au règne du Christ. C'est aussi pendant ces 30 jours que seront jugés tous ceux qui ont adoré l'Antéchrist et qui dénonçaient les Juifs aux autorités impériales au lieu de les aider. Je lis le passage. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venu à moi, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Fin de citation. Je continue le texte. « Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. » Verset 12. « Suite aux 30 jours de jugement et de rassemblement des Juifs, cette période de 45 jours va servir à mettre en place la structure du millénium. Les croyants ressuscités et ceux qui ont survécu aux persécutions du dernier César seront nommés à différents postes de responsabilité qui dépendront de la fidélité qu'ils auront montrée à Dieu pendant leur vie terrestre. Une fois que leur future fonction sera déterminée, ils devront s'y préparer afin de l'assumer correctement. Ce sera donc pour eux 45 jours de travail. Les deux nombres de 1290 et 1335 jours nous révèlent aussi que d'une part, des gens, israélites et non-juifs, resteront fidèles à Jésus-Christ, survivront au règne de l'Antéchrist et entreront dans le règne du Messie. Cette nouvelle a dû réconforter Daniel car malgré l'horreur des persécutions annoncées, son peuple ne sera pas exterminé. D'autre part, le temps va continuer avec les mêmes cycles que nous connaissons. La Lune et le Soleil seront toujours là-haut dans le ciel pour réguler les jours de 24 heures, les mois, les années et les saisons, et cela pendant encore 1000 ans. C'est seulement après que l'éternité commencera. Je finis le livre de Daniel. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Verset 13. Le Seigneur informe Daniel que, comme les autres croyants de l'Ancien Testament, il ressuscitera au début du millénium afin d'y participer. Tout au long de ce livre, l'Éternel a prouvé qu'il était le Dieu souverain qui régnait en maître suprême sur tous les royaumes de ce monde et sur ses individus. C'est lui qui véritablement fait l'histoire.